Bonjour Basma Konmani.
Bonjour.
Vous êtes politologue franco-syrienne engagée pour la démocratisation des pays arabes et vous participez aux négociations de Genève sur la Syrie au nom de l'opposition syrienne et à ce titre donc vous êtes membre de la SNC, la Syrian Negotiations Commission. Alors on va tenter de comprendre avec vous ce matin pourquoi le conflit syrien s'embourbe un peu plus chaque jour après 7 années de conflit. Un mot d'abord sur ces négociations de Genève qui ont débuté fin janvier. Elles sont interrompues. Pour quelles raisons ?
Elles ne sont pas interrompues, elles sont suspendues en ce moment. Elles n'ont pas lieu tout simplement. Nous devions retourner à Genève pour une négociation qui enfin avait quelque espoir de décoller. Avec un schéma qui est, tant que les deux parties ne se parlent pas, on n'avance pas. Alors il y a une partie qui va à Genève, qui parle de tout, et une autre partie qui ne dit rien, c'est celle du régime. Donc l'opposition est là, elle est présente, elle contribue, elle envoie des papiers, elle envoie des propositions, et le régime, rien du tout. Donc les Nations Unies commençaient tout de même à s'orienter vers un schéma légèrement différent, c'est-à-dire prendre un peu les choses en main, voir les propositions constructives, et essayer d'avancer malgré cela en poussant des options, en tout cas sur le papier. Nous espérions que la Russie était à nos côtés pour cela, malgré...
La Russie qui soutient le régime de Bachar el-Assad.
Qui soutient le régime de Bachar el-Assad, mais qui disait vouloir l'option politique maintenant, disait vouloir progresser dans les négociations. Et notre espoir était là. Nous, les pays, tout le monde espérait. Or, la Russie vient de s'engager massivement derrière le régime,
notamment
pour soutenir une grosse offensive militaire.
Sur la route orientale, on va en reparler. Vous réclamez une autorité de transition donc à la tête de la Syrie. Est-ce que l'ONU œuvre réellement dans ce sens ?
L'ONU, malheureusement, fait ce qu'elle voit possible en fonction de ce que les États importants sont disposés à faire. C'est-à-dire la Russie, pour parler crûment. Il n'y a malheureusement aujourd'hui que la Russie qui pèse dans le processus. Les pays occidentaux ne font pas ce qui est nécessaire pour que le processus soit plus équilibré. Mais la Russie était prête à une négociation sur la Constitution. Et c'est là où nous aurions pu avancer légèrement, très légèrement, non pas encore vers l'autorité de transition, mais bien pour dire voilà le cadre constitutionnel dans lequel la Syrie peut se reconstruire, elle sera démocratique, elle sera laïque, elle sera multiethnique et multireligieuse, et nous serions tombés d'accord sur le schéma et la nature de cet nouvel État syrien. Elle serait décentralisée aussi. Or, c'est cela qui est aujourd'hui en suspens.
Il faut peut-être rappeler les alliances en présence. D'un côté, la Russie avec l'Iran, et puis de l'autre, du côté des États-Unis, un axe sunnite avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Est-ce que la tragédie syrienne a bel et bien échappé aux Syriens ?
D'abord, je voudrais dire l'opposition est démocratique, elle n'est pas sunnite. Nous sommes avec beaucoup, beaucoup d'opposants qui sont de toutes les confessions syriennes. Ça n'est pas un conflit ethnique, il faut le dire et le redire. Ça n'est pas une opposition sunnite, elle est très diversifiée, d'une part.
La question était, est-ce que le conflit syrien a échappé aux Syriens ?
Assez largement aujourd'hui. L'opposition démocratique, en tout cas, a été marginalisée par des groupes qui sont arrivés de partout dans ce monde et qui ont dénaturé la demande d'origine du soulèvement contre le régime dictatorial, tout simplement.
Il y a de l'ingérence des deux grandes puissances et de la Russie en particulier.
Alors, nous avons aujourd'hui un grand jeu mondial qui se produit sur le territoire syrien. Nous avons des zones d'influence établi par des puissances régionales et internationales. La Russie et les États-Unis sont directement présents avec des bases militaires sur le territoire syrien. La Turquie au nord, l'Iran côté Damas et du côté du sud est présente. La Jordanie est là dans un petit rôle également. Vous voyez, il reste aux Syriens peut-être 15% d'influence sur leur propre pays.
Et pourtant, à l'ONU, une résolution a été votée il y a quelques jours pour une trêve immédiate de 30 jours. Ça n'a pas empêché les bombardements de continuer. Qu'est-ce que vous espérez de cette résolution et de cette trêve ?
Écoutez, nous avions très peu d'espoir qu'elle serait mise en œuvre. Elle a tenu 2-3 jours et la voilà aujourd'hui totalement dévoyée parce que le régime ne respecte rien. Les bombardements continuent tous les jours.
Le couloir humanitaire est vide.
Rien. Écoutez, les termes de couloir humanitaire et de ligne rouge sont devenus des mots creux. Très franchement, et les responsables politiques feraient mieux de ne même plus les prononcer, ils ne servent à rien. Et ils ne servent qu'à, en réalité, à montrer leur impuissance. Nous en sommes au point où personne ne fait rien.
On parle aussi de bombardements au gaz, de cas de oui. suffocation. Est-ce que vous avez de votre côté des informations qui
tous
confirmeraient des armes chimiques ?
Pratiquement. Tous les jours, il y a l'utilisation de chlore
dans la province de la route orientale.
Dans la province qui est proche de Damas, qui est à 7-8 km de Damas et qui est encerclée, assiégée depuis 5 ans et demi maintenant. Cette zone connaît tous les jours l'utilisation de chlore.
Qui utilise les armes chimiques dans la route orientale ?
C'est le régime qui lance des barils, qui lance des armes chimiques du ciel.
Sont-ce les Russes ou le régime de Bachar al-Assad ?
Essentiellement le régime lui-même. La Russie évite, pour ne pas se trouver elle-même accusée de crimes plus tard, elle le sera, mais...
Alors, un mot aussi sur un phénomène que vous avez observé sur un autre front, au nord de la Syrie, là où règnent des relais d'Al-Qaïda. Vous dites que depuis une dizaine de jours, la population se mobilise pour chasser les islamistes. Est-ce un mouvement spontané ?
Complètement spontané. La population, depuis toujours, sous-vivait. Le soulèvement était un soulèvement naturel des populations de la région. Arrivent des djihadistes qui n'appartiennent même pas à la région, qui organisent un mouvement radical lié à Al-Qaïda, tout simplement. La population a décidé que le moment était venu de chasser de ces villages, villes, les radicaux. Et ils partent.
Mais
c'est
avec
très
quelles armes ? Avec quelles armes ?
Très peu d'armes.
Comment
peu
font-ils ?
Très peu d'armes. C'est les hommes du coin ont une arme pour protéger leur maison, leur quartier. Mais la population civile, les femmes, les jeunes descendent dans la rue, les vieux descendent dans la rue, les femmes avec des balais descendent dans la rue.
Ça
en confirme
disant
maintenant,
bien.
Vous sortez, vous partez, vous n'avez rien à faire chez nous. On est en train de prendre des bombes à cause de vous.
Ça confirme bien que les islamistes de tous bords, si je puis dire, sont en perte d'influence dans ces régions-là en ce moment.
Oui, absolument. Ce mouvement est fini, si vous voulez. De toute façon, il n'avait jamais raison d'être là, mais il est fini parce que personne ne le protège. Et surtout, le retour à la normale pour les populations, c'est d'abord arrêter les bombes. Or, le monde entier prend prétexte de ces radicaux pour bombarder des populations civiles. Voilà, on en est là aujourd'hui.
Eh bien, merci d'être venu ce matin éclairer nos lanternes sur ce dossier syrien très complexe. Merci de ces précisions, Masma Kodmani, politologue franco-syrienne engagée en faveur de la démocratisation des pays arabes. Et je rappelle que vous participez donc aux négociations de Genève sur la Syrie au nom de l'opposition syrienne. Merci beaucoup et bonne journée.